France Culture.
C'est là ? C'est ouvert. Ok.
France Culture. Le Book Club.
Une merveilleuse épopée.
Ah, mais c'est des chocolats.
Ben oui, c'est mes cadeaux de l'Avent.
Non, mais en fait, j'ai tout bouffé alors qu'on n'est pas du tout à Noël.
Dans la bibliothèque de Rebecca Warrior. Ouais.
Elle est jolie la boîte. Hein.
Ouais, ça m'a plu.
J'adore. Hein.
Marie Riche. Je
vais très bien rentrer.
Si je vous dis sexy sushi, mansfieldia, compromat, normalement vous entendez une voix particulièrement reconnaissable avec une façon particulièrement reconnaissable de se poser sur le son. Et puis, vous voyez peut-être une silhouette, crâne chauve, noir vêtu, s'élancer en slam porté par les bras aimants d'une foule de concerts. Rebecca Warrior fait de la musique depuis longtemps. Au Beaux-Arts de Nantes, c'est une des pratiques qu'elle aimait le plus avec la peinture et l'atelier de poésie. À la rentrée littéraire 2025, elle publie un premier livre auto-fictionnel qui retrace les débuts d'une histoire d'amour entre elle et Pauline. Elles ont alors toutes les deux une trentaine d'années et le cancer du sein qui finit par tuer Pauline, c'est peu dire qu'elle ne le voyait pas venir. L'une des spécificités de ce texte, écrit plusieurs années après la mort de la jeune femme, est d'être entièrement tissée d'extraits d'autres textes lus avec l'amoureuse ou après. Les chapitres eux-mêmes font signe vers des univers littéraires, bref, c'est presque un livre bibliothèque dont le titre parle de lui-même toutes les vies. Rebecca Warrior nous reçoit chez elle après qu'elle a reçu le prix de Flore 2025 entre deux dates de tournée. De l'autre côté de la mini-cour, il y a son studio de musique et à l'intérieur, tout est calme. Ça sent la soupe, on est tellement bien là-dedans qu'aucun de nous ne sait 2 heures plus tard par où sortir.
On va visiter votre bibliothèque.
Ouais, moi je vais te dire tu,
ouais, ça va
être bien. Vous faites ce que vous voulez.
Ça roule.
Alors, c'est en bas.
Et je me suis fait un petit plaisir de bibli.
Ah oui.
Donc j'en ai fait une... C'est très haut de plafond, là, donc j'en ai fait une grande.
Ouais.
Et c'était mon rêve d'avoir ça, c'est une petite échelle de libraire. Donc j'ai ma petite échelle. Wow. Voilà.
Donc c'est une grande bibliothèque.
Enfin, c'est grand.
Bah, c'est oui, cool, correct. Quand même. Ouais. Disons que je peux lever les yeux quoi, pour aller chercher les derniers étages. C'était votre rêve, ça veut dire qu'elle existe depuis quand dans cet état, comme ça ?
Bah, en fait, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. J'habite à une rue d'écart. Je suis de Belleville, moi, donc je mourrais à Belleville. Mais j'habitais
à... Tout à fait de Belleville à l'origine.
Non, je suis du 4x4. Je suis de Loire-Atlantique à l'origine, mais ça fait 20 ans que j'habite à Paris.
Ouais. Pourquoi ici ? Pourquoi ce quartier pour les gens qui ne connaissent pas du tout Paris ?
À Belleville, ouais. Bah pour les restaurants chinois, parce que j'adore la bouffe chinoise. Et puis, en fait, quand je suis arrivée, j'étais étudiante, il y avait ces petites boules de farine qui coûtent 1 euro, et qu'on peut bouger, de prix, ou qui sont veggie, ou avec du porc et tout. Ça, pour un bal, tu manges très très bien. Et puis après, bah, j'ai pris goût à tout le reste de la nourriture. Donc, voilà.
Que pour les nourritures ?
Ah, j'aime aussi les coiffeurs. il y a vraiment un coiffeur, un resto de ravioli, un coiffeur. Donc comme j'aime les deux, c'est vrai que c'est idéal pour moi.
Donc vous avez déménagé il n'y a pas très longtemps. Il y a cette bibliothèque qui a changé en déménageant. Est-ce qu'elle s'est allégée ? Est-ce qu'elle s'est modifiée ?
Non, en fait avant j'en avais plein de petites, mais je ne savais plus du tout où mettre les livres. Donc comme j'ai déménagé, je me suis dit « Ah, je vais faire un espace où il y aura vraiment... Je pourrais regrouper tous les livres. » Parce qu'avant il y en avait partout, quoi. » Donc voilà.
Alors elle ressemble à quoi ? Décrivons-la. Déjà on peut dire que c'est une pièce qui appelle ça, quoi.
Qui appelle
au livre.
Ouais, c'est agréable.
Un bureau, quoi.
Ouais.
Un bureau.
J'ai voulu que tout soit fait en tatami et en bois, donc je trouve ça assez apaisant.
Ça l'est.
Ouais, et j'ai fait les plans moi-même de la maison, donc il y a des trucs, c'est pas tout à fait...
c'est beau, on peut la... Bon, on la décrira tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on marche, qu'on est comme dans un écrin de bois.
Ouais,
ça c'est un premier.
J'aime bien, c'est un petit côté cabane.
Ouais.
Donc je me sens bien à l'abri, puis cachée chez moi. Et effectivement, pour lire, c'est très agréable.
Donc cette bibliothèque.
Ouais, je les ai rangées par taille. Hein. Voilà.
C'est vrai.
Ouais. J'ai fait faire, bah alors tu vois, comme je te disais, j'ai fait les étagères, donc j'ai calculé le livre de mes, enfin, la hauteur de mes livres de poche. Puis après, j'ai fait, j'ai demandé au menuisier de faire les étagères sur toutes les hauteurs des livres. Et sinon, bah, je sais pas quoi te dire d'autre. Ah bah, que des bons livres.
Que des bons livres.
Ouais.
Que des livres lus ou à lire aussi, possiblement.
En fait, là, il y a un petit truc livre à lire, hein, mais le reste, c'est lu, ouais. Donc, c'est assez bien rangé. Et ça, c'est les livres qu'on me file et que je lirai pas, donc je vais faire des cadeaux de Noël.
Et si on s'approche ?
Ouais, vas-y,
qu'est-ce qu'on y trouve ? Bah, je sais pas, je vais vraiment...
T'en choisis un au pif.
Je peux aller vers lui.
Alors, attends, vas-y, t'es allée
bah,
là.
Bah, c'est Guibert
ah, bah,
qui
t'es
donne le titre à l'un de vos chapitres ouais, dans toutes les vies.
Un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Bah ouais, il est là, mon petit Guibert, mon petit Hervé. Il y a aussi, mais c'est dans mon studio en face, parce que j'ai un petit studio de son en face. Il y a aussi la première
côté,
page,
quoi.
Ouais, la première page que j'ai arrachée,
qui est là-bas,
qui est dans un cadre ah ouais. Dans le studio. Ouais.
Peut-être qu'on peut dire quand même, Rebecca Warrior, c'est que Toutes les vies, qui est le premier roman que vous avez sorti aux éditions Stock et qui a été couronné entre autres du prix Flore 2025, il est tissé de lecture. Il est à la fois tissé de lecture dans le texte, mais aussi dans les titres des chapitres.
Ouais.
Et en l'occurrence, par exemple, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. C'est un titre d'un chapitre.
C'est un chapitre, ouais.
Ouais.
Le livre, il parle du décès de mon amie, Pauline, ma femme. Et je me suis aidée au cours de cette maladie et de ce deuil d'auteurs et d'autrices qui ont servi un peu d'aidant. Donc, ils jalonnent le livre et à chaque fois, un livre ou un récit m'aide pour une période. Donc, ou m'aide pas d'ailleurs. Guibert, il m'a pas trop aidé. Mais...
Parce qu'il ne vous a pas sauvé la vie.
Il m'a pas sauvé la vie, mais quelque part, de savoir qu'il y a des gens qui vivent les mêmes horreurs ou les mêmes qui traversent des choses difficiles, c'est quand même un soutien quelque part. Même si bon, ça aide d'une drôle de manière. Quoi.
Est-ce que le livre, il était d'emblée construit comme ça ? Comme aussi une sorte d'autoportrait de lectrice ?
Ouais, totalement. Parce que dans les périodes difficiles de la vie, je trouve que la lecture, c'est vraiment une aide notoire. Donc,
Il y a des gens qui disent l'inverse, qui sont incapables de lire. Ouais.
Quand c'est trop, trop dur. Créer, moi.
Oui, vous la racontez.
Ouais. Ouais. Incapable de créer, d'écrire pour moi ou de chanter. Enfin, c'est compliqué, mais par contre, lire, non, ça m'aide bien, moi.
Donc, je l'ai sorti, lui, parce que ça me permettait d'introduire toutes les vies.
Vas-y, laisse-le te sortir.
Il y a aussi Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. J'avoue que j'y vais parce que ça fait partie aussi des livres, notamment que vous lisez avec Pauline, dans un moment très dur.
Il y a notre bonne vieille Simone, toutes ses mémoires, parce que je trouve que c'est quand même assez passionnant d'avoir comme ça la vie d'une autrice.
Comment vous la découvrez, Simone de Beauvoir ?
Je crois que c'est Pauline qui achète un premier livre.
Ouais.
Qui achète les mémoires, et puis Mémoire d'une jeune fille rangée. Puis au fur et à mesure qu'on commence à découvrir, on ne connaît pas du tout, et on se dit, tiens, finalement, cette bonne femme a des choses à dire. Puis moi, j'ai toujours bien aimé les mémoires, donc c'est vrai que de suivre comme ça des gens au long cours, je trouve ça génial.
Il y a quelque chose qui apparaît de votre relation, proche de la mort, mais aussi avant, qui se mêle à la lecture des livres. Est-ce que quand on regarde cette bibliothèque-là, on peut avoir une idée de vous ? Ou ce serait vraiment et trompeur et réducteur ?
Non, je pense que ça dessine un portrait assez fidèle de moi.
Ouais.
Non, c'est assez fidèle. Je pense que c'est des vieilleries, il y a beaucoup de... Comme moi. C'est peut-être ce qui me définira le mieux, c'est ma vie.
Vos lectures ? Ah ouais,
ouais.
Plus que par exemple vos disques.
Ah bah oui, les disques que j'ai faits, c'est les miens. Donc,
oui, c'est pas tout à fait pareil en effet.
Tu vois, ouais. Là c'est vraiment le travail des autres et ça fait un portrait plutôt pas mal.
Je lève le nez. Donc, là il y a un peu plus de poésie, c'est possible que ce soit une sorte de...
Bah en fait c'est rangé par taille, donc il y a des collections qui sont plus grandes que les d'autres. Effectivement... Mais j'en lis pas mal de poésie quand même, hein, j'adore ça.
Par exemple, je vois Sylvia Plath, Henri Michaud, Paul Éluard, re-Henri Michaud, et puis après l'Empire des signes de Roland Barthes, en effet. Et ils sont à côté pour des questions de...
De hauteur.
De hauteur. Et un peu de philosophie, et un peu de texte plus théorique.
Ouais, il y a un peu de philo, pas mal de poésie, beaucoup de mémoires, de correspondances. Et très peu de romans, je pense que c'est ce qu'il y a de moins.
Comment vous venez à la lecture quand vous grandissez, la maison dans laquelle vous grandissez, il y a des livres?
Pas trop. Il y a des BD. Moi, j'ai un petit... Je ne suis pas hyper à l'aise avec la lecture, donc ça, on dirait pas, mais...
C'est-à-dire que ce n'est pas agréable pour vous?
Ce n'est pas agréable, ouais. Okay. Donc j'écoute beaucoup de livres audio, et je viens à la lecture grâce aux livres audio. Donc,
Des adolescentes?
Ben, ça n'existait pas trop. Ouais. Donc dès que c'est sorti, dès que ça a existé, je crois que c'est le premier sur lequel je suis tombée, c'est Zarathoustra, lu par Michael Lonsdale. Et Banger, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, mon Dieu, il y en a peut-être d'autres, donc je file à la Bibli de Saint-Nazaire où je suis née.
Il existe d'ailleurs une version de Toutes les vies que vous lisez vous-même.
C'était important pour moi parce que c'est comme ça que je préfère lire, c'est en audio. Donc là, tu vois, il y a une partie de ma bibliothèque, mais il y en a une autre vraiment cachée qui est dans mon téléphone et qui est bien plus conséquente. Ouais.
Mais avant ça, avant Saint-Nazaire et les livres audio à la médiathèque,
moi, je lisais les BD, ouais. Et je me suis vraiment mis à la lecture. En fait, ça, c'est les livres que je peux pas trouver en audio, donc ou alors qu'ils sont hyper mal lus, parce qu'il y en a beaucoup de mal lus.
Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans la lecture?
Je trouve difficile. C'est mes yeux qui trouvent ça difficile.
Ah ouais.
Je reviens pas bien à la ligne. Il y en a un qui revient à une ligne et l'autre à la ligne d'en dessous. Donc, je pense que je suis astigmate et je sais pas, dyslexique et je dois cumuler des PB. Et
ça veut dire aussi que par exemple dans l'école, dans le parcours scolaire, c'était pas agréable.
Ouais, une galère.
Hein. Ouais.
Mais j'écoutais en cours, donc ça va.
Ah oui. Ouais, comme quoi l'oreille en fait quoi.
Ouais ça va. Quand j'écoutais, j'avais à peu près des notes correctes. Mais c'est vrai que quand il s'agit que d'avoir un truc à créer et tout, c'est plus long, c'est plus laborieux pour moi. Je peux le faire, mais c'est plus laborieux.
Et le rapport à la lecture comme ça, audio, il allait de pair avec le rapport à l'écriture?
Ouais, quand même. Assez rapidement, j'ai écrit des chansons, donc... Ça a quand même vraiment de l'importance pour moi, parce que même pour écrire mes textes, mes lyrics, mes chansons, j'ai toujours quand même pas mal soit écouté, soit lu.
Ah ouais?
Ouais.
Avec une circulation claire, genre ce que vous lisez.
Ouais, c'est
carnet,
ça
notation,
va dans les carnets,
citation.
Et ouais. Ça se repart ensuite, oups, ça part en album.
Transformé, ou cité de manière
volé,
cachée.
Voler. Ah bah, il y a des trucs volés, ouais.
Je le cité, dis. Oui, ou digéré, non?
Bah, j'aime bien quand même un peu piller, tout le monde fait ça.
Sans sourcer, quoi.
Non, voilà. Non, mais par exemple, De mon âme à ton âme, c'est quand même Ishin Denshin, c'est du japonais. Je l'ai traduit, clac, hop, ça part en chanson.
Allez, hop.
Ouais. C'est à la base, bon, c'est je pense que c'est Maître Dogen en 1200, et c'est en japonais. Voilà, je vous l'avoue, mais c'est pas...
Mais en même temps, c'est la vie de...
mots, non?
Ouais.
C'est ça?
Ouais.
Ouais. Et souvent, c'est digéré, c'est c'est retravaillé, j'ai pas tout volé.
Et vous écoutiez quoi de la médiathèque de Saint-Nazaire en livre audio? Donc Zarathoustra, ok.
Ouais, mais alors c'est
un gros début quand même.
C'est un gros début, ouais. Mais je trouve ça assez fun, non? C'est quand même un peu imagé, c'est un peu un conte. Et c'est le tout venant. Donc j'ai pas tellement. Enfin, je choisis si, plus ou moins maintenant, mais à l'époque, je pense que j'écoutais tout ce qui passait. Donc je pense que je me laisse un peu, mais même dans la vie, je me laisse un peu porter par ce qui arrive dans mes mains.
Et aujourd'hui, ça occupe quoi comme place dans votre vie, la lecture?
C'est hyper important. Mais comme la culture, comme l'art, comme... j'en parle dans toutes les vies. C'est quand même quelque chose qui donne du sens à la vie, pour moi.
Quotidiennement, par exemple?
I wish. J'aimerais trop, mais malheureusement, des fois, je suis dans des avions avec la gueule de bois, donc j'ai pas du tout envie de lire. Bon, bah, c'est pour ça que les livres audio, c'est encore quand même vraiment super
ça
bien.
Ça peut supporter l'avion gueule de bois, les livres audio,
ça
non?
Ça marche très bien. Mais après, je m'endors, je sais plus à quel chapitre je suis, c'est une galère.
Et ce qu'on voit là, qui est comme une sorte de organisation parfaite d'un endroit parfait pour lire, vous le pratiquez vraiment? Genre ce fauteuil. Cette lampe.
Ce fauteuil, je suis vraiment tout le temps dedans.
C'est vrai?
C'est vraiment mon fauteuil.
Ok. On en a fini de cette bibliothèque ou qu'est-ce qu'on veut dire de plus?
Non, on a tout dit.
Hein. Oui, il y a les grands livres qui sont grands,
qui
font de l'encyclopédie du potager au livre des symboles et à un guide...
Astérix et l'anatomie et au tai chi.
Allez. Et quelques guides de voyage. Ouais. Je suis curieuse du rouge à côté de Stefan Zweig juste avant de partir. Ah bah Schopenhauer.
Ouais.
Allez, en toute simplicité.
Un truc bien déprimant.
Voilà. On va vers vos choix.
Allez bien.
Voilà, hein. On a fini avec la bibliothèque.
Je me souviens.
Culture. Le book club dans la bibliothèque de Rebecca Warrior. Marie Richeux.
Alors, c'est le deuxième. J'ouvre ma petite pochette.
Waouh, c'est stylé quand même.
N'est-ce pas, hein? Ouais. Donc, on vous a demandé ce qu'on appelle des livres étapes.
Ouais, j'ai pris.
Comment avez-vous interprété cette question?
Je sais pas, j'ai pas lu ça comme ça.
Ah oui, vous avez dit quoi alors?
Je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais prendre 5 livres.
Mais vous avez dit 5 livres préférés, 5 livres chéris, 5 livres chouettes, 5 livres.
Je me suis dit 5 livres sur lesquels j'ai des trucs à raconter.
Okay.
Et j'ai, comme ça, ça m'a permis de refaire un tour de bibli, ce qui est toujours sympa.
Tellement agréable.
Ouais.
Est-ce que vous avez une évidence pour commencer?
Non.
Très bien.
Vas-y, choisis.
Je vais aller là-dessus pour une question de. De couverture et de curiosité d'édition.
Bah, c'est beau, hein. C'est stylé quand même.
C'est hyper beau, ouais. De quoi s'agit-il?
C'est le Shobogenzo. C'est un livre. Là, c'est un tout petit extrait. Donc, c'est Encre Marine qui a sorti juste un bout du Shobogenzo, parce que normalement, c'est 10 volumes énormes de 500 pages. Et c'est un traité sur le zen. Voilà, donc c'est un peu philo, pas mal poésie, je trouve ça très très beau. Et c'est un peu, on pourrait rapprocher ça, je sais pas, du Tao Te Ching ou...
C'est un texte du 13e siècle?
Ouais, je crois.
Comment est-ce que vous le découvrez?
Quand
puisque
je...
vous n'étiez pas là au 13e siècle.
Et si.
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je raconte?
Le Shobogenzo, je découvre ça quand je découvre le Zazen, donc une méthode de méditation. Et c'est un peu un coup de foudre pour moi, c'est un peu une révélation.
La méthode ou le texte?
Les deux. Le texte plus tard, parce que d'abord j'ai pratiqué longtemps avant de me mettre à lire le Shobogenzo, que d'ailleurs j'ai pas du tout lu en entier. Mais un peu comme un coup de foudre, j'entends le mot zazen et je me dis « oh, c'est génial, il faut absolument que je fasse ça ». Et ensuite, je me suis mise à creuser et à vouloir lire et découvrir tout ce qui concernait le zazen. Donc, ça en fait partie.
Et ça se présente comment alors?
Alors là, c'est un tout petit extrait parce que c'est quand même ardu. Donc des fois, je me prends des éditions comme ça, un peu chic, où tout est expliqué. Mm. Et pour moi, c'est un petit peu plus simple. Surtout que c'est un bloubi-boulga, on va dire, de japonais et de chinois et d'indien sanskrit. Donc là, le traducteur, il explique vraiment tout, d'où viennent la sémantique des mots, etc. Donc c'est ultra, ultra intéressant. Mais c'est vrai que pour lire 3 pages, ça prend 3 heures.
Et donc le traducteur, c'est Charles Vacher, et sinon, c'est Maître Dogen.
Ouais.
C'est un moine ?
Ouais, c'est un moine qui...
Et qu'est-ce qu'il y raconte ? C'est un traité ?
C'est de la philosophie, on va dire. Donc c'est aussi des méthodes de vie. Ça explique aussi comment apprécier les choses, comment voir la vie, comment ça parle beaucoup aussi de la mort, donc ça m'intéresse vraiment. Et ça parle aussi beaucoup du, on va dire, du temps qui passe ou de la méthode d'appréhender le temps qui passe.
Mmh. Parce que vous cherchiez des textes là-dessus pour augmenter votre connaissance de cette pratique-là ?
Ouais, je pense que c'est vraiment, c'est arrivé, je te dis, comme un coup de foudre, une passion. Donc soudain, il fallait un intérêt spécifique, comme on dit. Il a fallu que je fouille tout ce qui concernait tout ce qui concernait le zen et même alentour, donc aussi le taoïsme, le confucianisme, le Japon au 12e au 13e siècle, la Chine,
historiquement parlant, quoi.
Ouais, voilà. Il a fallu que je creuse. Je suis pas du tout une expert, mais par contre ça me passionne.
Dogen exhorte le lecteur à se mettre dans un état d'esprit où se combinent souplesse et rigueur, profondeur et apparence, assurance et douceur. Il invite à l'ouverture sur l'inconnu et l'inconcevable, quitte à y rencontrer de nombreux paradoxes. L'un d'entre eux, fréquemment exploité par Dogen, est celui du temps non linéaire. Le père ne vient pas avant, le fils après, etc. La généalogie père-fils doit être élargie à d'autres filiations, celle entre maître et élève, et celle entre œuvre écrite, père, et leur interprétation, fils. Les interprétations s'entremêlent comme les lianes d'une plante grimpante. Le temps n'est-il pas une plante ?
Ça, c'est le traducteur.
Ça, c'est le traducteur qui explique un peu les notions clés. Mm. Et ensuite, c'est Dogen himself.
Le cœur, c'est les haies, murs, tuiles, cailloux. Les montagnes, rivières, cette vaste terre. Le cœur, c'est la peau, la chair, les os et la moelle. Le cœur, c'est le tournoiement d'une fleur, le sourire entendu qu'elle suscite. Il y a le cœur conscient, il y a le cœur inconscient. Il y a le cœur qui est habité par le corps et le cœur qu'aucun corps n'habite. Il y a le cœur avant le corps, il y a le cœur après le corps. Le corps naît selon différents modes, à partir d'une matrice, d'un œuf, de l'eau, de l'air, sa matrice. Le cœur naît également selon les différents modes, matrice, œuf, chaleur, humidité, transformation. Les bleus, jaunes, rouges, blancs, c'est le cœur. Le long, le court, le carré, le rond, c'est le cœur. Naître, mourir, aller, venir, c'est le cœur. Les années, mois, jours, heures, c'est le cœur. Les rêves, visions, fleurs, fleurs du vide, c'est le cœur. L'eau, les gouttes, l'écume, les flammes, c'est le cœur. Les fleurs au printemps, la lune en automne, c'est le cœur. Tout instant fugitif est le cœur. Donc, il ne se peut qu'il, le cœur, soit anéanti. C'est pourquoi l'aspect réel de tous les dharmas est le cœur. Ce que seuls les bouddhas, avec les bouddhas, comprennent, c'est le cœur.
C'est hyper beau.
Oh, c'est vrai, c'est hyper beau, je suis d'accord.
Et ça pourrait presque être... peut-être parce que je l'entends dans votre voix, mais ça pourrait presque être la rythmique d'une chanson.
Ouais, c'est clair. Parce que c'est ce que j'aime bien dans la littérature japonaise, c'est que souvent, en fait, on va quand même à l'essentiel, on essaye d'être assez minimaliste, donc soit dans les haïkus, etc., ou même dans la littérature en général, c'est quand même assez... on est pur. Et je trouve ça vraiment chantant. Moi, c'est ce que j'aime.
Et qu'est-ce qu'il faut ? On va pas faire de commentaires, j'imagine, d'un texte qui demanderait d'être étudié longuement. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre dans « C'est le cœur », ça a à voir avec, avec l'amour ou pas du tout ?
Ben, ça a à voir avec Alors, on dit le dharma, mais ça a à voir avec...
C'est quoi le dharma? Parce qu'il utilise là, le terme.
Moi, je dirais que c'est un peu comme le cosmos ou l'univers, c'est-à-dire que en fait, on fait partie d'un grand tout. Donc, on est les arbres, on est le ciel, on est l'univers. Et on est aussi, nous, ici, maintenant, mais on est aussi ailleurs, quoi. On peut être aussi transporté dans le temps. C'est pour ça que tu dis que tu n'étais pas au XIIIe siècle. Si. Faux.
Mal.
Et raté. Pourquoi pas. Et c'est ce qu'il essaye d'expliquer, le traducteur, au début, que en fait, il y a aussi des filiations qui ne sont pas aussi
chronologiques
qu'on croit. Quoi. Que des fois, en fait, on peut être... voilà, moi, je suis inspirée par ce type qui était ni dans mon pays, ni dans mon époque.
Et ouais, ça veut dire aussi qu'il dit, il dit que puisque le cœur, c'est tout ça, quand même très, très hyper moderne, même la formulation, c'est le cœur et ce retour-là, mais puisque le cœur, c'est tout ça, il n'y a pas de possibilité que le cœur se tarisse.
Ouais.
Mais ça veut dire... Mais ça veut dire que ça annule la fin, ça annule notre finitude.
C'est ce que moi, j'interprète du bouddhisme, c'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas une réincarnation au sens « Oh, voilà, je suis maintenant Madame Dupont ». C'est genre... on est immortel, puisqu'on est, on est toute chose. Donc... C'est ma manière de voir la vie limitée.
Mais ou illimitée, justement.
Ouais, illimitée.
Mais ça veut dire, quand vous rencontrez ces textes-là, j'imagine que vous étiez sur une vision plutôt limitée de la vie, avec l'idée de la finitude et de la mort.
Bah ouais, tout à fait.
Mais c'est pour ça que ça bouleverse complètement tout le rapport.
Mais ça fait aussi, ça soulage aussi, quelque part, de se dire que les morts sont encore avec nous. Ils sont encore un peu partout, ils sont dans toutes les particules. En tout cas, moi, ça m'a aidé à vivre et ça m'aide encore énormément. Ouais.
Vous continuez à lire ces textes-là? Ça date de quand, cette découverte, à peu près?
Je suis nulle en date, mais je dirais que ça fait plus d'une dizaine d'années, quoi. Et plus que jamais, je suis méga intéressée.
Deuxième choix.
On n'a qu'à prendre un truc qui n'a rien à voir.
On prend
Édouard Levé.
Je suis sûre qu'il va y avoir plein de choses.
Ah ouais?
À voir. Wow. Souvent, ça se révèle quand même, le fait que les textes qui sont choisis...
Comme ça, à brûle pour point, ça a l'air d'être l'opposé.
Ok, voyons voir. Édouard Levé, poète. Important, de langue française.
Ouais. Bah, important, pas assez connu, à mon sens. Il n'est pas hyper mainstream.
On va dire qu'il est né en 1965.
Yes.
Qu'il se tue en 2007, jeune, et que vous avez choisi un de ses textes les plus connus, peut-être, dans sa littérature, mais connu à votre goût, qui est Autoportrait.
Ouais.
Il faisait des photos aussi, Édouard Levé.
Il faisait des photos tellement, tellement drôles.
C'est vrai?
Ouais, il faisait des...
Je les connais mal, c'est quoi?
Ah ouais, il faisait des photos de... Il reprenait des scènes de porno, mais il habillait les gens. Et du coup, c'est hilarant.
On fait des, il y a des postures sexuelles, mais tout habillé.
Ouais, tout habillé en costume et en habit un peu secrétariat, enfin, genre vraiment, qui font pas envie. Et ça, c'est vraiment drôle.
Comment vous découvrez Édouard Levé?
Je le découvre parce que je suis aux Beaux-Arts, donc je découvre ses photos, pareil, des mêlées de rugby qui est refait en costume trois pièces. Et je découvre d'abord ses photos que je trouve. J'étais aux Beaux-Arts de Nantes.
De Nantes, ouais.
Et. Je trouve ça assez drôle, assez fun. C'est vraiment ce que j'aime en art. Donc, je commence à creuser et je découvre sa littérature. Et j'ai un coup de foudre.
Et vous, vous êtes aux Beaux-Arts parce que qu'est-ce qui vous intéresse à ce moment-là dans la pratique artistique?
Déjà, pas mal écrire parce que je suis inscrite à l'atelier de poésie. Donc, que je trouve assez cool.
Qui est menée par qui à l'époque?
Par Bigat, Daniel Bigat. Qui est un super poète. Et puis, je faisais de la musique aussi aux Beaux-Arts, parce qu'il y avait un studio de... Il y avait un home studio, donc c'était le début des home studios, donc c'était assez énorme. Et personne ne savait trop ni s'en servir, ni... Donc j'étais un peu toute seule là-dedans, enfermée. J'ai passé des très bons moments aux Beaux-Arts.
Donc, Édouard Levé, vous découvrez ses textes. Et par exemple, celui-là, qui s'appelle Autoportrait, qui sort chez POL 2 ans avant sa mort. Donc on est en 2005. Et peut-être vous voulez dire... Comment c'est composé, ce livre-là? De quoi c'est fait?
C'est, je crois que c'est genre 1800 phrases, petites phrases, qui sont mises bout à bout, qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres, mais qui le définissent, qui font un autoportrait.
C'est marrant parce que tout à l'heure, quand vous parliez du début de votre goût pour la lecture, vous avez beaucoup évoqué les mémoires.
Ouais.
que l'idée que écrire sur soi ou écrire à partir de soi, c'était quelque chose.
C'est tout ce qui m'intéresse. C'est bien simple.
Que ce soit clair.
Que ce soit clair, c'est tout ce qui m'intéresse.
Pourquoi ça vous intéresse là-dedans?
Ah, ça me, c'est pareil, c'est un autre intérêt spécifique. Je trouve ça, bah, très très beau que les gens essayent de se définir. Ouais. C'est magnifique. Et, j'aime encore plus quand c'est le travail d'une vie, tu vois, genre Anaïs Nin qui l'a fait toute sa life, ou ben là, de Beauvoir, c'est aussi beaucoup ça. Je sais pas, peut-être je suis très curieuse, donc il y a un petit côté de moi un peu voyeuriste, genre, ah, c'est quoi la vie des gens, quoi.
Parce que quand vous dites que vous écrivez déjà aux Beaux-Arts de Nantes, c'est une écriture qui a déjà à voir avec l'écriture de soi?
Ouais, ouais, c'est mes petits carnets, là, mais... Je te les ai pas montrés dans la bibliothèque de l'autre côté.
Je les ai vus.
Ah, tu les as vus, ouais. Il y a tous les petits carnets.
J'ai vu des carnets, je savais pas que c'était les vôtres, mais ouais.
Et donc, je sais pas, j'ai quel âge? J'ai 47 ans, je sais pas, je dois avoir quand même une trentaine de carnets. Et puis... Bah alors maintenant, j'écris plus dans les carnets. Voilà, honte. J'écris sur mon tel.
C'est les nouveaux carnets.
Ouais.
Vous avez choisi un extrait de Autoportrait, Rebecca Warrior, d'Edouard Levé. Donc un texte de 2005.
Depuis l'âge de 15 ans, je mesure la même taille, mais je ne pèse pas le même poids. J'ai les yeux bleus, les cheveux blonds, vénitiens, mes poils de barbe, de torse et de pubis sont roux. En été, mes taches de rousseur prolifèrent, se superposent et donnent l'illusion que je suis bronzée. Je ne me ronge pas les ongles, je les coupe une fois par semaine. Je ne porte pas de chemise rose, je ne boite pas de whisky. Il m'arrive de boire de la vodka sans plaisir. Je bois du calvados. Je bois un mélange de calvados et de liqueur de cassis. Recette héritée d'un grand-père que je n'ai pas connu. Je n'ai pas suivi les cours suivants décrits dans la brochure américaine de Learning Annex. Réussir à Hollywood, devenir l'assistant personnel d'une célébrité en gagnant beaucoup d'argent et en voyageant autour du monde avec des gens riches et puissants. Parler de n'importe quoi à n'importe qui. Gagner de l'argent dans des événements spéciaux et dans le domaine du mariage. Ouvrir son propre pressing. Utiliser l'hypnose pour augmenter ses ventes. Devenir un faiseur de pluie superstar. Dessiner avec la partie droite du cerveau. Préparer en un soir des plats diététiques et économiques pour 15 jours. Apprendre à lire la musique en une nuit. Inverser le processus de vieillissement par l'acupression. Parler à son chat. Acquérir une mémoire photographique en une nuit. Surpasser la procrastination dès maintenant. Recevoir des messages de l'au-delà. Je me dis parfois que si je mentais, les choses seraient plus simples et pas seulement pour moi. Je n'utilise pratiquement pas d'allumettes, même pour allumer le gaz, je préfère les briquets. Je n'aurais pas pu travailler dans la finance, la comptabilité, l'informatique, la recherche scientifique, mais j'aurais pu travailler pour un parti écologiste, dans une association humanitaire, une maison d'édition ou une institution artistique. Je regarde des cartes géographiques pour le plaisir, mais je me passerai de regarder des cartes routières pour préparer un itinéraire. Dans les cartes géographiques, je commence par regarder les bords de mer, où les noms sont plus faciles à lire. Puis je m'enfonce dans les terres, sans suivre d'itinéraire précis, seulement guidé par le mouvement capricieux de mes yeux. Je porte des pulls à fermeture éclair, que je peux ouvrir ou fermer en fonction de la température. Enfant, j'étais persuadée d'avoir un double sur cette terre. Il avait le même âge, le même corps, les mêmes sentiments que moi, mais pas les mêmes parents, ni la même histoire. Comme il habitait de l'autre côté de la planète, je savais que j'aurais peu de chance de le rencontrer, mais je croyais quand même au miracle. Je me suis brouillée avec un ami très cher parce qu'il refusait de venir m'aider avant plusieurs jours pour faire fonctionner l'ordinateur qu'il m'avait vendu. Je ne juge pas un pays d'après les qualités de ses programmes télévisés. Prendre des vacances à New York m'a plus fatiguée que travailler à San Francisco. Les premières peintures que j'ai exposées consistaient en de grandes toiles sur lesquelles je faisais couler de la peinture de bas en haut, en des formes géométriques simples faites d'un mélange de peinture et de sable dans une couleur de terre et de métaux oxydés. Cette exposition a eu lieu dans une galerie de mon oncle pendant 3 jours en juillet 1993. J'ai vendu l'essentiel de ce qui était présenté, j'ai détruit ce qui restait, faute de place.
m'avait dit que ça n'avait strictement rien à voir avec Maître Dogen. Mais moi, il y a une chose qui...
T'as trouvé quand même...
Non, mais qui me marque en vous écoutant, c'est la rythmique de la liste.
Ouais,
et qui est aussi quelque chose que vous reprenez dans toutes les vies. Moi, par exemple, il y en a une qui m'a marquée, qui arrive plutôt à la fin de vos textes, et oui, c'est comme une sorte de liste pour vivre, en tout cas, c'est des choses à faire ou des choses que vous faites pour vivre. Et là, il y a ça, quoi. Il y a vraiment l'idée d'une liste aussi, quand même.
Ouais, ouais, c'est complètement... c'est une suite de phrases. Et là, ouais, Édouard Levé fait totalement ça, quoi.
Pendant tout le livre, c'est comme ça.
Pendant tout le livre, c'est comme ça. C'est hilarant, quand même.
Ouais.
Tout ce qu'il a pas lu.
Il y a des moments hilarants et moins, du coup, forcément.
Ouais, il y a des moments très, très tristes. Mais je trouve que c'est un... Il a réussi à bien se définir. J'ai une bonne image de lui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la liste?
J'aime le côté assez minimal, en fait. Que ce soit... je sais pas comment dire. C'est tac, 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 tac. On revient vite à la ligne. J'aime bien l'écriture automatique. Quelque chose comme ça, de l'ordre de la simplicité.
Vous la pratiquez, l'écriture vraiment automatique?
Ouais, bah dans toutes les vies, hein, toute une liste où j'ai dit je dois me débarrasser des mots. C'est tout ce qu'on a dans la tête. Et genre, de les noter, tac, 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 ça me soulage, moi. Donc, je suis habituée à faire ça. Ouais. C'est assez pur,
ouais.
Quoi.
Ouais.
Et c'est aussi un style de poésie.
Ouais, quand même.
Quand même.
Au final, ça
ouais,
devient.
C'en est un.
Troisième choix?
Troisième choix. La 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 la, qu'est-ce qu'on pourrait prendre?
Moi, je pense qu'il faut aller chez Vinciane Després, là, au cœur.
Ça roule. C'est Vinciane Després, c'est Au bonheur des morts.
On me dit qui est Vinciane Després?
Ouais. C'est une... je crois qu'elle est philosophe, puis sociologue.
Qui... Tout à fait une philosophe.
Là, elle sous-titre son livre « Récit de ceux qui restent ». Donc, « Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent ». Moi, ce livre, il m'a vraiment, vraiment intéressée parce qu'il parle de notre relation aujourd'hui aux morts. Qui est quand même assez compliqué et...
Occidentalement parlant.
Ouais, ouais, bien sûr. Où les morts ont plus vraiment, et moi j'ai ressenti ça aussi, ont plus vraiment de place. Donc, y a une cérémonie auquel on ne s'identifie pas forcément, d'ailleurs. Et ensuite, ben, voilà, il ne faut plus trop en parler. Le deuil, c'est assez compliqué. Il n'y a plus de joie à reparler de nos morts, quoi, quelque part. Et donc, elle évoque ça et elle dit que c'est bien dommage parce que, par exemple, je pense à Pauline quand elle est décédée, Vimala, dont je parle pas mal dans le livre, qui est une amie, qui continuait de mettre ses chaussures ensuite. Et donc, en fait, elle continuait de faire marcher Pauline, quoi. Quelque part, elle continuait à la faire vivre et puis nous, on la voyait avec ses chaussures et ça nous faisait aussi du bien. Donc, tous ces petits éléments, Vinciane Després en parle beaucoup. Et je pense que c'est des sortes de rites modernes qu'il faudrait réactiver. Donc moi, j'ai écrit aussi toutes les vies pour parler de ça, quoi, parler de notre relation aux morts.
Et comment vous la décririez-vous, peut-être en vous intéressant à cette femme que vous avez aimée, Pauline, mais plus généralement, votre relation aux morts, ce serait quoi aujourd'hui, Rebecca Warrior?
Moi, elle a totalement changé, justement. C'est venu aussi avec ma pratique du zen, le bouddhisme, le fait de trouver la foi, etc. Mais pas que. C'est aussi, je trouve, j'ai redigué des trucs de sorcellerie ou des trucs qu'on fait nous et qui n'ont aucun sens. J'en parle dans toutes les vies où je dis que j'ai la sensation que Pauline, elle vit dans mon ampoule de salle de bain.
Mais c'est pas un moment hyper agréable pour vous?
Pas du tout.
Vous dites que vous finissez par penser qu'elle vous envoie des messages parce que le truc déconne, mais ça me semble pas, j'avais pas l'impression que vous l'écrivez comme une expérience qui est une belle expérience de relation.
Eh ben non, pas
mais
au...
Mais c'en est une, en tout cas.
Mais c'en est une, non. Ouais. Mais pas au début, mais en fait, ça, j'ai fini, comme je te disais, j'ai déménagé. Et quand j'ai déménagé, je me suis dit, je vais pas quand même laisser Pauline dans l'ampoule. Donc j'ai allumé la lumière, j'ai dévissé l'ampoule et je l'ai remis dans le couloir, là, chez moi. Et je suis plutôt contente d'avoir fait ça. Et je me dis, bon... Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'elle habite dans le tableau électrique. Mais bon, on en parlera une autre fois. Mais...
Non, mais est-ce que ça, par exemple, c'est aussi ce que... Joanne Didion, elle peut appeler aussi la pensée magique, par exemple?
Bien sûr, c'est de la pensée magique. Et je pense que c'est intéressant aussi de faire une tambouille mystique moderne, de s'inspirer de toutes les choses qui nous parlent et de, d'être très, très ouvert aux signes aussi. C'est de plus en plus, je pense qu'on est... On veut pas voir les choses, c'est assez triste. On est très terre à terre.
Puis il y a aussi dans ce souci de Vinciane Després l'idée que c'est ce qui reste, donc c'est aussi une affaire de vivant, ça. C'est-à-dire
bien
que,
ouais.
En fait, toute cette histoire-là que vous racontez, c'est-à-dire les signes, les rites, les gestes, les croyances, etc., ça concerne ce qui reste.
C'est tout à fait important pour ce qui reste. Ouais. Mais parce que, en fait, il faut continuer de faire vivre nos morts. Et que, actuellement, je trouve pas qu'il y ait de bonnes propositions. Et moi, d'ailleurs, quand on a commencé à faire les albums de Compromat, donc c'est mon groupe avec Vitalik, et on a aussi voulu créer une sorte de messe païenne, on l'a appelée Playing Praying, et c'était aussi un peu pour célébrer nos morts d'une manière, on fait de la cold wave, mais c'est quand même assez joyeux, tout le monde est là ensemble, et on chiale, et on danse, et ça nous fait du bien.
Et Vinciane Després, elle fait dans ce livre-là comme une sorte d'inventaire des gestes très contemporains qui sont faits par les vivants vers leur mort. Yes. Vous voulez un extrait ?
Cette lampe qui monte et descend, elle est très efficace quand elle monte.
Parce que je suis quand même un peu miro, donc là, si j'ai pas ça...
Elle est super efficace.
Le rêve demande à celui qui en est le destinataire d'apprendre à le formuler comme une question à laquelle il s'agit de répondre activement. Que me veut-il ? On n'a pas besoin de savoir si c'est le rêve qui veut ou si c'est le père. C'est d'ailleurs pourquoi l'on entend si souvent, à l'issue de ce type de rêve, « qu'est-ce qu'on fait avec cela ?» Marcos Mateos suggère de répondre « eh bien, on en fait une énigme ». Mais, ajoute-t-il, « qui sait encore formuler une telle chose ? Je viens seulement de comprendre pourquoi Nietzsche se disait « ami des énigmes » et pas « ami de la sagesse ». Une réponse énigmatique, c'était ça un signe oraculaire. C'était fait pour être pensé, pour nous faire gagner des forces afin de surmonter des épreuves. Le rêve n'est donc pas une énigme, mais il oblige à en fabriquer. Il constitue une énigme au sens fort de constituer. Faire rêver, c'est l'un des modes privilégiés par lequel les morts prennent soin des vivants, les mettent au travail, font bifurquer le cours de leurs actions, les incitent à rompre avec leurs habitudes, les obligent à une autre appréhension des choses. Un rêve qui se rencontre dans de nombreuses cultures met en présence le rêveur et un proche disparu. Dans le premier, qui fut raconté en Algérie, une fille voyait sa mère ployée douloureusement sous le fardeau de deux énormes urnes. Dans le second, il s'agit d'un fils qui apparaît à sa mère, il est dans un groupe d'hommes, il marche très lentement et reste en arrière. Dans l'un comme dans l'autre, les rêveurs vont s'inquiéter. « Quelle est cette charge aussi lourde ?» dira la fille à sa mère. « Pourquoi restes-tu en arrière ?» dira la mère à son fils. La réponse est la même, la mère tend les urnes. Le fils ouvre sa cape et montre une poche remplie d'eau. « C'est parce que je dois porter ces larmes, ce sont les tiennes. » Ainsi, les morts peuvent-ils participer, comme je l'ai entendu, être joliment proposé à ces petites combines du désir, en autorisant ce qui ne pourrait être accepté que venant d'eux, l'ordre de reprendre le fil de la vie, parfois celui de la joie. Les morts se soucient du chagrin, les vivants font honneur aux obligations. Tous, avec ce tact si particulier, ce tact ontologique, que convoquent ces situations. Ils apprennent à s'adresser les uns aux autres par le milieu.
Stylé. J'avais dit que ce serait le milieu. Vous vous souvenez ?
Ouais.
J'avais dit qu'il faut qu'on aille au milieu.
T'es forte.
ça me fait penser à, évidemment, à un passage de Toutes les vies où vous racontez que vous rêvez de Pauline. Et c'est un jeudi. Et vous dites, j'espère qu'elle va revenir tous les jeudis.
Tous les jeudis, ouais. Bon, c'était pas... non, ça s'est pas fait.
Non, mais c'est assez beau, la place, en effet, quand Després dit que le rêve, c'est un des véhicules avec lequel les morts mettent au travail les vivants.
C'est fou, parce que moi, je pense que dans cette période de chagrin, pour moi, le sommeil était totalement absent. Donc, c'était extrêmement dur de me reposer.
Par l'insomnie, quoi, c'est
ça. Ouais, par l'insomnie, ouais. Et en même temps, quand j'avais des phases où je pouvais dormir, c'était fou, parce que... il se passait vraiment énormément de choses, quoi. J'avais beaucoup de choses à traiter. Mmh. Donc, je pense que ouais, le rêve, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière. Enfin, moi, je sais que je note énormément mes rêves dans mes carnets, mais il y a une matière à philosopher. Donc, ça me fait, ça me fait deux vies en parallèle.
Mmh. C'est riche.
Ouais, c'est génial.
Alors, il nous reste Jean Cocteau ou Anna Dostoïevski. On prend Anna.
Ouais.
Alors, ma vieille Anna.
Donc, femme de Fiodor.
Ouais.
Comment vous découvrez parce que souvent on connaît
Fiodor.
Fiodor. Est-ce que vous avez commencé par lire Fiodor?
Ouais, j'adore.
J'adore Fiodor.
Je crois que j'ai commencé par Le Joueur. Et en fait, Anna, c'est sa seconde femme. Et elle est dactylographe. Donc,
Il lui dicte d'ailleurs les frères Karamazov.
Ouais. Il lui dicte, je crois qu'il commence à lui dicter Le Joueur et après tous ses livres. Et en fait, quand j'ai lu le journal d'Anna, il y a un portrait vraiment très très fort de elle. Et il y a un portrait aussi de Fiodor. Et on dit tout le temps que, en fait, derrière les grands hommes, il y a quand même des femmes. Et là, genre, bon, je crois que c'est clair.
Et c'est d'autant plus fou qu'elle ait la possibilité de le dire et de l'écrire. Ouais. Parce que quand on dit qu'il y a une femme derrière les grands hommes, souvent on n'entend pas leur voix, on sait à peine qui c'est. Et là, il y a un journal.
Là, il y a un journal. Alors, le journal, il est très boring. Bon, donc, c'est tout ce que j'aime dans les journaux. C'est vraiment...
La météo ?
Ouais. C'est la météo, si j'ai acheté le pain, Micheline me doit encore 2 euros. Enfin, il y a vraiment beaucoup de problèmes d'argent parce qu'ils habitent à Genève et ils sont sans le sou. Donc, il y a des histoires de thunes tout le temps. Et de courrier aussi. Déjà des problèmes avec la poste.
J'ai reçu ça, j'attends ça.
J'attends ça, hein, maman doit m'envoyer de l'argent. Et c'est quand même très redondant. Alors, Fiodor, il dort comme un chat, c'est drôle. Il dort 3 heures, puis il se réveille, puis il écrit, puis il redort 3 heures. Et elle, évidemment, elle fait qu'il puisse faire ça, quoi. Alors, lundi 4 novembre.
4 novembre 1867, c'est
ouais.
ça ?
Ouais. La bise a cessé aujourd'hui, et il a fait très bon. Nous avons examiné le manteau de Fédia. Fédia, c'est Fiodor, c'est son petit nom. Nous avons trouvé que nous pourrions l'arranger en achetant un peu de soie pour le doubler, et qu'ainsi il pourrait encore lui servir quelque temps. Fédia a proposé de dépenser 5 francs pour la réparation. Profitant du beau temps, je suis allée acheter l'étoffe, en emportant un échantillon. Dans 2 ou 3 magasins, j'ai trouvé le tissu qui convenait. Mais on m'en demandait 7 francs le mètre. Or, il m'en fallait au moins 1 mètre. Partout où je suis allée, c'était le même prix. Aussi, à la fin, ai-je préféré revenir à la maison, demander à Fédia si je pouvais prendre 7 francs. Il m'a grondée de ne point l'avoir fait sans solliciter sa permission. Et je suis repartie de nouveau pour mes achats. L'argent que j'ai à présent, je dois en prendre grand soin. Au cas où, Katvov ne m'en enverrait pas. Je pourrais le faire passer d'abord pour de l'argent envoyé par maman, ensuite pour de l'argent reçu contre gage. J'aurai ainsi quelques subsides. Et si tout se passe bien, et si la chance nous sourit, je pourrais même envoyer à maman un joli foulard. J'ai acheté 3/4 mètre de tissu pour 5 francs, et une forme pour 1 franc. Mais je n'ai pas cousu aujourd'hui, parce qu'il a vite fait nuit, et je voulais, si je devais le faire, faire très bien mon ouvrage afin que Fédia ne pût dire que je suis une mauvaise couturière. Je suis allée à la poste, mais je n'ai rien trouvé. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas de lettres. Je ne sais trop qu'en penser. Mardi 5 novembre. Je me suis levée d'assez bonne heure aujourd'hui. Je me suis mise à faire quelques essais pour voir comment poser la doublure. Cela n'a pas été facile au début, mais j'ai réussi ensuite. Je ne réveille Fédia avant 10 heures, malgré l'envie lancinante que j'ai de boire mon café. Lorsqu'il s'est levé, je lui ai demandé d'allumer le poêle. J'ai repassé la doublure et ajusté les bandes de telle manière qu'il fut absolument impossible de remarquer qu'il y avait une doublure. Puis j'ai commencé à coudre. J'ai fait la moitié du travail aujourd'hui. Je suis ensuite allée dîner. Et le soir, il faisait si sombre qu'il était absolument impossible de coudre. Nous avons passé la journée dans une fort bonne entente. Fédia aujourd'hui s'est montré très tendre à mon égard. Il a dit qu'il m'adorait et qu'il adorait l'enfant. Il pense que ce sera à coup sûr un petit Micha, qui sera très turbulent et qui aura toujours des bleus. Lorsque nous nous sommes couchés, il m'a dit qu'il nous bénissait, moi et mon futur enfant. Nous avons songé aujourd'hui que dès que nous aurions un peu d'argent, il vaudrait mieux faire le trousseau de l'enfant progressivement, plutôt que d'acheter tout à la fois. Car cela reviendrait beaucoup plus cher et serait loin d'être aussi bien.
Ah, la vache.
Un peu d'eau.
Non, c'est chiant pour vous.
C'est chiant, mais vous aimez alors.
Ah, j'adore, mais qu'est-ce que c'est chiant.
Pourquoi vous avez choisi ce passage-là en particulier?
De toute façon, ils sont tous pareils. De toute façon, c'est toujours à la poste, maman.
L'argent.
La météo. 7 francs, 2 francs, 6 francs. Fédia, il est chiant. Fédia, il est gentil. J'aime bien ça. C'est vraiment. T'as une année. En plus, elle écrit vraiment tous les jours. Donc, elle a rien à dire. Chaque jour qui passe. Il n'y a pas plus à dire, mais c'est on raconte les petits machins, quoi. Il y a un truc de... En tout cas, que moi, j'ai eu dans les journaux de s'astreindre. Qu'elle a, Anna Dostoïevski, de vraiment faire tous les jours, alors qu'il n'y a pas forcément un truc à dire. Et ça, je trouve ça assez...
Et ça fait une surprise, parfois ?
Il n'y a pas de surprise, pas dans celui-là.
Non, mais je veux dire, quand on s'astreint tous les jours, alors qu'on se dit vraiment, j'ai rien à raconter,
ouais.
Parfois, on peut constater qu'on pense en écrivant. Il y a quelque chose qui peut surgir quand on écrit, ouais, juste par la pratique.
Et puis... moi, en tous les cas, c'est la méthode que j'utilise. Alors, je sors pas les journaux tels quels comme ça. Mais je pense pas qu'elle, elle ait souhaité sortir ce journal, publier ce journal. Je pense qu'elle le faisait juste pour elle. Mais il en sort que, oui, après des journées où on s'astreint à écrire, effectivement, il y a... ensuite, moi, je ressors ces carnets pour faire toutes les vies ou pour faire des chansons, donc pour faire quelque chose d'autre, quoi. En tous les cas, je trouve que c'est comme, je dis souvent, l'écriture, c'est comme faire des abdos. C'est vraiment un travail du quotidien, et écrire au quotidien, finalement, même quand c'est chiant et qu'on parle de la pluie et du beau temps, ça...
Il y a une discipline, quoi.
Ouais, ça aide peut-être à trouver les mots, peut-être à...
À se penser, aussi.
À se penser en écriture. Je trouve ça bien. En tout cas, j'ai adoré le lire.
Le journal. Allons vers Jean Cocteau. C'était votre dernier choix, Rebecca Warrior.
Ouais.
Les lettres.
Les lettres de mon moulin.
De Jean Cocteau, mais à Jean Marais.
Ouais.
C'est que leur correspondance à eux deux.
Non, c'est que les lettres de Jean Cocteau. Jean Marais a pas mis ses lettres, il les a pas retrouvées.
Oui, mais je veux dire, Jean Cocteau, il a écrit à d'autres gens. Ouais. Là, c'est que Jean Marais.
Non, c'est que... Ouais. Mais c'est que... C'est que Jean Cocteau qui écrit les lettres. Mais moi, j'ai pris comme extrait uniquement la préface, écrite par Jean Marais.
Ok.
Ouais. Je l'ai pris aussi parce que je trouvais ça... Enfin, c'est intéressant pour moi, les correspondances, j'en ai énormément. Et,
vous en lisez ou vous en entretenez avec les gens?
J'en entretiens beaucoup. Il y en a pas mal aussi dans toute la vie. Il y a, j'ai énormément de correspondances avec plusieurs personnes et je trouve ça vraiment génial de lire les correspondances au même titre que les journaux. C'est une autre facette, c'est une facette un peu plus édulcorée, peut-être un peu mensongère des fois aussi.
De la correspondance ?
Ouais, il y a...
Parce que c'est ce qu'on veut dire de soi.
Le carnet, comme Anna Dostoïevski, c'est vraiment genre, c'est elle pure et dure. Dans la lettre, on envoie autre chose.
On vous écoute pour la préface ?
Yes. En 1963, le 11 octobre, Jean Cocteau ne traversait pas définitivement le miroir. Son esprit, son cœur, son âme, son génie, son œuvre vivent avec plus de force qu'une enveloppe corporelle qui n'était en sorte que le véhicule de cet amalgame de dons, de vertus, de sensibilités hors des normes. Il emprunte aujourd'hui un véhicule différent et invisible. Sans nul doute, il s'amuse à parler par ma bouche, par la vôtre, par celle des médias. Je l'entends chaque jour à la radio, à la télévision. Il sait très bien, lui, jusqu'où on peut aller trop loin et doit sourire lorsqu'un écrivain ne s'aperçoit pas qu'il glisse dans ses écrits. Comment peut-on parler de mort lorsque l'esprit vit, jeune, aigu, fort, violent et riche de tendresse, d'amour et de vérité ? Jean Cocteau a écrit « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Que n'avait-il pas dit ? La mauvaise foi, le mauvais esprit, les surréalistes en particulier, s'écrièrent aussitôt que le poète avouait qu'il était un mensonge. Incroyable malentendu qui s'évite encore. C'est parce que ses détracteurs avaient inventé qu'il était un menteur que Jean Cocteau, avec ironie, a dit qu'il était un mensonge, qui dit toujours la vérité. Notre amitié a duré 25 ans. Je n'ai jamais surpris Jean Cocteau en train de mentir. Pourtant, lorsqu'il racontait une anecdote que nous avions vécue ensemble, il racontait d'une façon si cocasse, si drôle, si inattendue, que les auditeurs hurlaient de rire et imaginaient qu'il inventait. J'étais obligée d'intervenir et d'affirmer que tout était absolument vrai. C'était sans nul doute son talent de conteur, donc de poète, qui donnait ses couleurs plus vraies que le vrai. Je parle de ces faits au passé, car ils ont eu lieu il y a plusieurs années, mais je parle souvent de Jean Cocteau au présent. Il y a quelques années, j'ai fait un spectacle sur la vie du poète. Je tenais à ce qu'il n'y ait pas un mot qui ne soit pas de Jean Cocteau, et que tous les textes soient pris dans son œuvre. Bientôt, je songeais à la réincarnation de Jean Cocteau en Jean Marais. Donc, je relus toute l'œuvre de Jean Cocteau. C'était la première fois que je lisais l'œuvre d'une seule traite.
je fus éblouie, découvrant tout à coup un philosophe au-delà du poète. Disons, un poète-philosophe. J'ai relu aussi des lettres et les poèmes qu'il m'avait adressés. Encore une fois, je fus bouleversée. Dans ces lettres, Jean Cocteau ne cherche à aucun instant à écrire une belle phrase. Il n'y a aucune littérature. Il écrit l'essentiel, se laissant diriger par le cœur. Jean Marais. C'est fou, hein? C'est classe. Voilà.
Vous reproduisez à la fois des lettres de vous dans votre livre, mais aussi des lettres de Pauline.
Ouais.
Qui sont des très beaux moments, quoi. Des moments de... Oui, je sais pas.
J'en ai pas mis beaucoup.
J'en ai mis que deux, il me semble. Et j'en ai énormément. Mais c'était
que un... Que vous avez gardé?
Ouais, mais c'était un autre livre. Donc... C'était une autre vision, je voulais me raconter moi plutôt que la raconter elle. Mais du coup, je comprends bien qu'il n'y ait que les lettres de Jean Cocteau. Et quand on le lit, en fait, on arrive vraiment bien à définir une histoire qu'avec un côté du... qu'avec un personnage.
Ce que dit aussi Jean Marais dans cette préface, c'est l'idée qu'il y a un très grand courage dans l'impudeur. Et qu'il y a quelque chose dans la possibilité d'écrire tout depuis son fond de vie... qui est courageux, qui est beau, quoi.
C'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça bien aussi d'écrire tout ce qu'on a sur le cœur, parce que si on commence à édulcorer, en fait, moi, je vois plus trop l'intérêt. On décrit pas l'humain en faisant ça, quoi. Donc, pour moi, c'était important d'écrire aussi dans toutes les vies, tous les moments où je me sens nulle ou que je fais des erreurs, ou... Voilà. Sans aucune limite.
On a commencé par le maître d'Hogen et ce texte qui dit « c'est le cœur, c'est le cœur ». Et on termine par « c'est le cœur ».
Yes,
parce c'est que vrai. Parce que Jean Marais dit de Jean Cocteau « c'est le cœur ». On se trompe quand on le croit autre chose que juste le cœur.
Ben voilà, on a, la boucle est bouclée.
Merci beaucoup d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Ben c'est moi, merci.
Merci.
Les gars, vous voulez pas un tupperware dessous?
Pour retrouver les textes évoqués par Rebecca Warrior, rendez-vous sur la page du Book Club, franceculture.fr. Et vous trouverez aussi toutes sortes d'informations et les autres portraits de bibliothèque. À la prise de son, ici, c'était Benjamin Reyes. Au mixage, Julie Garraud. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
Bisous.